Le Noël du Moblot. Si vous avez connu Duval, dit le Moblot, ce grand chat maigre, garde-chasse de son métier et qui faisait si bien le pied au matin débattu, si vous l'avez connu et que vous ayez un minimum de littérature, je suis sûr qu'il vous évoquait, comme à moi, la sympathique figure de Don Quichotte, l'ingénieux Hidalgo de la Manche. Non qu'il eût combattu les moulins à vent, il était trop sensé pour cela. Non qu'il se fût amusé à crever des outres pour en répandre le vin, il avait trop grand respect de la pureté septembrole. Mais sa haute taille, sa figure osseuse, ses manières de rodomont et sa vantardise en faisaient une assez fidèle copie du maître de Sancho Panza. S'il tenait par sa prestance du XVIe siècle, il en tenait aussi pour son appétit. Rarement vîtes-vous mangeur plus solide que Duval le Moblot. Dès son jeune âge, alors qu'il était petit valet, il ne se rassasiait point. Il ne connaissait pas son appétit. « J'ai-t-il bientôt assez mangé, monsieur ? » demandait-il à son patron. Si celui-ci ne lui eût pas répondu vite, Duval eût dévoré toutes les galettes de sarrasin, et je ne sais s'il eût laissé en repos la tuile et le grill. Un jour, il avait 18 ans, il paria à la Saint-Clément, du Plessis Grimaud, qu'il mangerait un gigot tout entier et gagna son pari. Une autre fois, il dévora un dindon, etc. Si je voulais vous raconter tous ces exploits pantagruéliques, je n'en finirais. Qu'il vous suffise de savoir qu'il naquit aux environs de Saint-Rémy-sur-Orne, pays où l'estomac des gens est, comme le sous-sol, bardé de fer. « Man poire auguste, » disait sa mère, effrayée d'avoir à donner la béquée à un ogre semblable. « Comment que tu feras quand tu seras soldat ?» Le fait est qu'une maigre gamelle devait sembler pitance légère à un homme de la complexion de notre ami. Hélas, il ne l'eut même pas toujours, la maigre gamelle, car il fit son temps de service à un moment où les moins affamés périssaient d'inanition. Il atteignit ses 20 ans lors de la guerre, et suivit les mobiles du Calvados à l'armée de Chanzy. Certainement, Duval n'était pas un capon, et il fit son devoir tout comme un autre. Mais bon Dieu, qu'il souffrit de la faim! « Ah, mes bonnes gens, » disait-il invariablement, quand, après avoir fait le pied, il s'attablait au déjeuner de chasse et coupait à la miche un gros chanteau de pain. « Ah, mes bonnes gens, si j'avions eu chat en 70 !» Et alors, sans désemparer, il nous contait les misères de cette époque. À Dreux, il avait mangé du cheval, à Marchenoir, des pommes de terre gelées, à Nonancourt, il avait découvert un beefsteak, mais une panique imbécile le lui fit laisser sur le grill. À Sillé-le-Guillaume, il était tellement harassé qu'il s'était tendu en pleine neige et n'avait rien goûté pendant plus de 30 heures. À Fréteval, il s'était battu comme un lion. À la suite des fusillés marins du commandant Collet, qui paya cet exploit de sa vie, il avait traversé le pont, repoussé les Prussiens à la baïonnette et pénétré dans la ville. Après un tel effort, il espérait bien dîner ce jour-là. Ah oui, les Prussiens avaient mangé tout, ni pain, ni viande, ni poisson. Ils n'avaient rien laissé. Ah, les goulus! Je dus encore, ce jour-là, passer devant le buffet. Je vois, mon pauvre Duval, que cet exercice vous était familier, lui disais-je pour le mettre en verve. Et que si, grâce à Dieu, vous vous êtes rattrapé depuis, il ne vous reste aucun souvenir de joyeuse ripaille durant cette lamentable épopée de l'armée de la Loire. Ah non, pour sûr! Pourtant si, un jour, je peux dire que j'en ai pris tout mon ça, mais jusque-là, et que ça ne m'a pas coûté cher. Vraiment? Comptez-nous cela, Moblot, tranquillement, tout en cassant la croûte. N'oubliez pas le proverbe « Brebis qui belle perd sa goulée ». Je ne l'oublie pas, messieurs, pas plus que je n'oublierai jamais les détails de l'histoire que je vais vous raconter. C'était la veille de Noël 1870. Notre bataillon était aux environs du Mans, et ma compagnie cantonnait dans un village dont ni mes camarades ni moi n'avons jamais exactement le nom. Nous étions du reste fort mal tombés. Nous logions, si on peut appeler ça loger, dans une malheureuse ferme, pauvre d'aspect, appartenant à un individu de mauvaise mine et de nom significatif. Il s'appelait Rétif. Je vous jure que ce nom lui allait bien, et que sa figure, chafouine et rose, aux lèvres pincées, n'était pas trompeuse. C'était l'avare le plus dur que j'ai connu. Nos vêtements étaient usés, nous étions nu-pieds, nous grelottions, lamentables. Cela ne lui faisait pas pitié. Il fallait tout lui arracher. Dites, maître Rétif, donnez-nous au moins quelques bourrées.
Je n'en ai point.
Allez nous chercher un verre de cidre, on vous paiera.
Je n'en ai point.
Laissez-nous prendre une botte de paille pour nous coucher.
J'en ai si peu.
Toujours la même chanson, à tel point que pour puiser l'eau à son puits, nous fûmes obligés de le menacer de la corde.
C'est une honte, et pourtant ce vieux quin ne manquait de rien.
Il avait notamment sous un tas de bourrées 2 tonnes d'excellent cidre. Nous l'avons su depuis d'une drôle de façon. Un de nos camarades, un nommé Barbeau, se trouvait ivre tous les jours. Dans le dénuement complet où nous étions, cette pistache journalière était pour nous un problème. Barbeau avait beau dire, la langue pâteuse, c'est le froid. Nous n'y croyons rien. Il nous avoua plus tard avoir découvert la cachette de Rétif. Il n'avait rien ébruité, mais à la nuit tombante, il introduisait un fétu par la bonde et se régalait en faisant semblant de dormir.
Ce n'était pas bête, et ma foi, voler notre hôte, c'était pain béni.
Ne m'en veuillez pas si je vous trace si longuement la figure de cet individu. Je ne me souviens jamais de lui sans colère. Et d'ailleurs, il est juste qu'un pingre de cette espèce, qui refusait un verre de cidre à de malheureux soldats, soit flétri par de bons Français comme vous. Nous le flétrissons de grand cœur, Moblot. Mais hâte-toi, le soleil monte à l'horizon, et comme chante Paul Harel, pique la voix, mets-nous en joie, prends ton limier, au bois, sois le premier. Achève ton histoire, si tu veux que nous ne fassions pas buisson creux.
Vous pouvez servir le café, messieurs. Le temps qu'il refroidisse, mon histoire sera terminée.
Vous vous imaginez aisément les tristes réflexions qui nous venaient à l'esprit. Tandis que le ventre creux, couvert de vrais haillons et les pieds dans la neige, nous rôdions comme des ombres dans la cour peu hospitalière de Rétif.
Triste Noël, hein, me disait Robillard. Un pays que je n'avais pas quitté depuis le commencement de la campagne. Ce n'est pas cette année qu'on va chanter le Letta Voce à la messe de minuit. Je crois bien que nous ne coulinerons guère et qu'on n'entendra pas grand monde dire. Taupes et mulots, si tu restes dans mon clos, je te brûle la barbe et le sauce.
Ce rappel des coutumes tant aimées de mon pays de cinglés me mit les larmes aux yeux. Et je dis tout penaud, si seulement on pouvait réveillonner.
Réveillonner, mes gars ?
Dit notre sergent qui avait toujours le mot pour rire, bien qu'il souffrît comme nous et qu'il ait laissé à la maison une toute jeune femme.
Réveillonner, et avec quoi? Avec du pain et du sec, comme on dit chez nous.
Ça dépend, sergent, nous dit derrière nous une voix dont l'accent n'avait rien de calvadosien,
et que nous prîmes d'abord pour la voix de Rétif.
Ça dépend.
Nous nous retournâmes et vîmes un paysan sartois, costumé comme notre hôte, mais dont la figure avenante et futée contrastait singulièrement avec la sienne. Il tenait sa casquette à la main, et à son air, nous devinâmes qu'il avait une communication intéressante à nous faire.
« Que voulez-vous, mon vieux ? » lui dit le sergent. « Vous pouvez parler devant mes camarades. Il n'y a pas de bleu ici, allez-y. »
Le paysan, toujours méfiant, nous tira quelque peu à l'écart, et en nous prenant par nos vareuses et regardant autour de lui par précaution, voici ce qu'il nous dit.
« Ainsi, sergent, vous n'avez pas de quoi réveillonner cette nuit ?»«
Rien n'est hélas plus vrai, » répartit le sergent.
« Eh bien, si vous êtes un homme courageux et qu'une 20aine de vos camarades veuille nous suivre, vous pouvez être certain de trouver une table garnie. »«
Et où cela ?»«
À quelques kilomètres d'ici. »
« Pour moi, » intervins-je, « s'il faut seulement faire quelques kilomètres pour bien réveillonner, bien qu'il neige comme du chien,
J'y vais avec votre permission, sergent.
Il ne s'agit pas seulement de faire quelques kilomètres, poursuivit le paysan en secouant la tête.
M'est avis qu'il faudra, ventier ben, se battre. Car si la table est servie, elle ne l'est point à votre intention, mes gars. Et si vous voulez vous y asseoir, il faudra gagner vos sièges, à la pointe des baïonnettes.
Il expliqua que le matin, une vingtaine de housards de la mort, sabre au clair, avaient envahi sa ferme, qu'à force de menaces, ils avaient eu raison de lui, qu'il l'avait contraint à préparer pour le soir un plantureux réveillon. Toutefois, comme à leur tête se trouvait un sous-officier bien élevé, on lui avait donné quelque argent en dédommagement, et on l'avait invité à la table commune. Pour sabler, comme il disait, le Jean Bagne. Mais plutôt que de trinquer avec ces housards, j'aimerais mieux crever de soif. Et comme le cœur me saignait à la pensée que mes poulets serviraient à nourrir ces gueux, j'ai résolu de leur jouer une bonne farce en prenant mon gourdin. J'ai fait une lieue, ai demandé où cantonnaient les soldats français, et suis venu droit à vous.
Vous êtes un bon type, dit le sergent très ému. Votre invitation me plaît.
Et ma foi, je ne dis pas non.
Et moi je dis oui avec votre permission, sergent, m'écriai-je, car la langue m'affriolait, et plutôt que de laisser à d'autres les poulets rôtis dont fumait montée en imagination à mes narines, j'aurais bravé le brasier de l'enfer.
Ma décision entraîna le sergent qui promit au paysan de répondre à son appel.
Je me trouverai donc vers 8 heures à quelque part d'ici, dit le brave homme. Réunissez 20 de vos mobiles et je vous conduirai.
Je vous jure que les 20 hommes ne furent pas longs à trouver. Car si ventre affamé n'a pas d'oreille, il doit avoir jambes agiles et bras courageux.
Je serai pendu pour vous dire les noms des 20 convives. Tout ce que je sais, c'est qu'avec Robillard, moi et Barbeau, il y avait un Parisien égaré parmi nous et qui, à la demande du sergent, avait répondu « Ça colle !» Et aussi le père Cacheloup que vous connaissez tous.
« Cacheloup, dit Turtgambe, dit le blaireau, qui, dès ce temps-là, roulait déjà en marchant. »
Nous partîmes à l'heure dite, le paysan servant de guide, et Turtgambe fermant, boitillant la colonne. Pour étouffer le cliquetis des fourreaux des baïonnettes, nous les tenions de la main gauche. Quant au bruit de nos pas, on eût été empêché de les entendre, attendu que, depuis la moitié de la campagne, nous étions pieds nus.
Nous marchions depuis environ une demi-heure, quand notre guide dit « Regardez, c'est là !»
Nous vîmes en effet, à quelque distance, des fenêtres éclairées et nous entendîmes une bordée de rire.
« Diable ! » ne pus-je m'empêcher de dire un peu plus haut.
« S'ils rient et parlent si fort, ils n'en sont point au potage, et nous n'aurons mec les restes. »
« Silence, dit le sergent légèrement fâché. Pas de bruit et effaçons-nous le long du mur.
Oui, le long du mur, dit le guide fort bas, car au milieu de la cour, il y a une mare de purin grossie par les pluies.
Ils sont bien là, continua-t-il, car leurs chevaux emplissent mon écurie et ils les ont scellés tout près pour repartir au plus tôt.
Ce serait chouette, laissa échapper le Parisien, de couper les sangles ou les guides de leurs canassons. Ce qu'ils en feraient, une tétère, les alboches.
Oui, dit le sergent, c'est une bonne idée. Mais attention au garde d'écurie.
Par bonheur, le garde d'écurie dormait, sous de cette ivresse allemande, lourde et sinistre comme la mort. Le Parisien, Robillard et moi, nous entrâmes dans l'écurie et coupâmes les sangles et les guides de 5 chevaux.
Mais au 6e, le garde d'écurie, qui rêvait sans doute, eut un grognement qui d'un bond nous jeta à la porte.
« Allons, dit le sergent, assez de babluse et droit au festin. »
Une seconde après, nous étions tous en groupe, retenant notre souffle, fusil en main et baïonnette au canon, à la porte de la salle, où les housards riaient à gorge déployée, choquaient leurs verres.
« Prosit !»
D'un coup de crosse, la porte sauta, et nous envahîmes le local.
« Bonsoir, messieurs, dit le sergent.
C'est pas chic de réveillonner sans nous, dit le Parisien.
Je ne sais ce que marmotèrent les housards.
Maxéang, pététin, pététin, pététac,
car je ne sais pas l'allemand. En tout cas, ils n'étaient pas fiers, et se voyaient perdus, attendu que pour javailler mieux, Ils avaient ôté leurs armes.
« Que personne ne bouge, dit le sergent. Vous êtes tous prisonniers.
« Si vous croyez cela, vous avez compté sans votre hôte, dit en excellent français un grand housard à jolie moustache blonde, que je pris pour le maréchal des logis de la troupe, et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, il fit sauter les carreaux et s'enfuit par la fenêtre, suivi de tous les autres.
« Arrêtez-le, dit le sergent.
« Mais impossible, car en rôdant je ne sais comment, Cacheloup, dit Tortegambe, dit le blaireau, avait, avec le bout de sa baïonnette, renversé la lampe, et nous n'y voyions goutte. Nous attendîmes donc, anxieux, dans les ténèbres, risquant de nous embrocher les uns les autres, que les housards revinssent. Mais ils ne revinrent pas. À la fin, le sergent allait nous inviter à nous mettre à table. Quand nous entendîmes au dehors un clapotement indicible et des appels désespérés. À la lueur de la lampe, victime de Cacheloup et enfin rallumée par le paysan, nous distinguâmes cinq individus, cinq housards qui pataugeaient et qui mieux dans la mare. Voici ce qui s'était passé. Vous vous souvenez que nous avions coupé les sangles de cinq chevaux. Dès que leurs cavaliers les eussent montés d'un bond, sans toucher aux étriers, les chevaux, livrés à eux-mêmes, gagnèrent l'abreuvoir. Mais à peine baissèrent-ils le cou que les housards piquèrent la tête dans l'eau, au risque de se noyer, empêchés qu'ils étaient par leur selle, leur colbac, leur sabretache. Parmi eux se trouvait le maréchal des logis. « Parbleu, lui dit notre sergent, cette fois vous êtes notre prisonnier. » « J'aurais mauvaise grâce à ne pas le reconnaître, répondit l'autre qui décidément savait vivre. « Cela nous fait cinq prisonniers. » « Hélas, cela en fait six en comptant notre garde d'écurie. Il est saoul comme une griffe, mais c'est un Polonais, ce n'est pas drôle. » Tandis que sous bonne garde, nos housards légèrement grognons se séchaient dans la cuisine, nous attaquâmes les poulets un peu cuits, mais à la guerre comme à la guerre. Le sergent eut une idée. « Si nous invitions le maréchal des logis, pourquoi pas ?»« Monsieur, lui dit-il, vous plairait-il de trinquer avec nous? Vous avez payé le festin, il est équitable que vous en ayez votre part. » Comment donc, fit le housard, on ne refuse jamais de boire avec des braves. Et ma foi, vous êtes des braves. Tout se passa donc le mieux du monde, et le champagne, nous donnant une douce gaieté, Cacheloup, qui avait une superbe masse-taille, entonna le minuit chrétien. Sa voix grondait si fort qu'elle eût sûrement cassé les vitres. Mais elle l'était déjà, de la façon que j'ai dite. « Eh bien, messieurs, conclut le Moblot, croyez-moi si vous voulez, ce réveillon me ragaillardit pour toute la campagne. C'est au souvenir de ce joyeux festin que je me battis vaillamment à tout voix, où je fus blessé et où tomba glorieusement le capitaine Lepipre. Aujourd'hui encore, tenez, rien que d'y penser, cela me donne des jambes. Allons, messieurs, nous allons faire une bonne chasse. Partons, il est temps, les chiens s'impatientent. Allons, paix là, ravissante. Paix là, Rouflot, paix là, amiral. On y va, mes loulous. Louis Gouget, 11 août 1911. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.